C'est lui, le roi de tous. Robuste et balsamique, ses grands muscles de bois contractés dans la brise qui passe, vibrante, au travers des noirs pinceaux d'aiguilles, le pin blanc fait tache sombre sur les horizons clairs de la Laurentie, à moins que, ayant aux jours anciens conquis toute la terre autour de lui, il n'ait créé la multitude des fûts agiles, la grande forêt silencieuse, pavée d'or roux. Dédaigneux des sols gras, le pin blanc plonge tout l'être subtil et fort de ses racines dans le sable aride redouté de ses frères. Ainsi, arc-bouté sur le ciel et hanté sur la terre, l'arbre immense est un élan, retenu dans sa course par des attaches nécessaires et profondes. Il est la surrection permanente d'un grand corps vivant hors de la matière inanimée et muette. Il est l'effort victorieux, il est la vie. Il est aussi l'ancêtre, l'un des derniers témoins vivants du passé mystérieux de la terre. Ceux qui l'entourent, foule des arbres et arbrisseaux, noyés dans leur molle frondaison, fines herbes qui se couchent à ses pieds, sont des tares venus dans la horde de la vie. Il n'était pas encore que lui, le pin, couvrait déjà, tel que nous le voyons, des continents abolis, des géographies disparues. Sous des ciels de feu, il vivait en silence, une vie superbe, diffusant, au milieu du grouillement de faune de cauchemar, la pénétrante odeur de ses résines. Sa marche conquérante n'était alors arrêtée ni par les cercles polaires, ni par les Atlantiques. D'un pôle à l'autre régnait ce perpétuel été qui est la norme de la planète Terre. L'homme, facteur troublant, n'était pas encore. Rien ne venait entamer les équilibres fatals. Cependant, sous l'ombre brune de la forêt de pins, mammouths et mastodontes, quand ils vont dans les clairières pâturer les racines gonflées de sève, frôlent au passage les grands troncs écailleux. Et quand la nuit vient, lorsque c'est tu, la bramée de l'élaf, on entend passer encore, sous le dôme sonore et noir, l'effroyable rugissement du lion géant. Et puis, la grande catastrophe, le torrent de glace qui roule lourdement vers les suds, qui écrase, qui détruit, qui nivelle. Des années, et encore des années, par centaines de milliers. Et puis, la renaissance du soleil, et puis la glace encore, 2, 4, 5 fois. Chassé toujours, le pin blanc retrouve toujours la Laurentie, qu'à son dernier tour, il y a peut-être 40 milliers d'années, il semble avoir élu pour son domaine de prédilection. Depuis ce temps, il rêve sur les granites roses des Laurentides, il regarde passer l'eau verte de nos grands fleuves, il se penche sur l'écume de nos cataractes. Tout ce qui vole dans le ciel lui est familier. Le perchoir de sa branche se fait hospitalier à la corneille qui sonne le printemps en s'éjouissant à l'image obscure et charogne prochaine. Il ne refuse pas non plus sa poitrine d'écorce au bec aigu du pic à tête rouge et se fait abri pour la foule innombrable des passereaux. Mais la grande faune a disparu qui, dans la forêt pliocène, vivait la vie énorme et chaude. De tous les grands mammifères, seul l'ours, l'orignal, le caribou et le chevreuil, ayant survécu à l'épreuve glaciaire, hantent encore le nouveau royaume du pin. Mais un jour, nu, sombre, barbare et magnifique, l'homme apparut, l'homme venu de loin, de si loin qu'il en avait oublié son origine et son berceau, être faible entre tous les êtres, mais qui portait la flamme de l'esprit, l'homme qui marchait debout et qui avait inventé le feu. Et le pin blanc fit tout de suite alliance avec lui. Sous son ombre, pendant les siècles qui roulaient tous pareils, l'Indien a dressé son wigwam d'écorce de bouleau. Il a cousu son canot de la fine radicelle de l'Anadda. Suspendu à sa branche par la tige souple du sélastre, la nagane, durant des âges, s'est balancée. Et sur le sol, de génération en génération, l'enfant rouge a fouillé avec étonnement les logettes des cônes tombés. Au soir d'orage, quand le vent tordait la chevelure des branches, l'homme rouge a cru entendre, dans les cimes grondant comme des ours, la voix irritée de ses manitous. Mais dans les belles nuits, les nuits veloutées dont la paix détend les muscles de l'homme, la voix du pin s'élevait. Je suis le pin, je suis l'ancêtre, je suis le guide de la forêt. Toujours mes branches, tendues, montrent la route blanche pavée d'étoiles, la route du grand pays bleu. Viens dormir à mon ombre, à mes pieds. Mes membres puissants pénètrent la terre où tu reposes. Viens, il est tout près, le pays de la chasse éternelle. Et voici la route blanche, pavée d'étoiles. Je suis le pin, je suis l'ancêtre, je suis le guide de la forêt. Les âges ont passé, d'autres âges. Un clair matin, des canaux de haut bord sont apparus sur le fleuve, le grand fleuve qui roulait dans sa force. Une flamme blanche tendait la drisse à la proue, et dans les cordages, des hommes pâles regardaient, émerveillés, les têtes ciselées des pins s'enchâssaient dans la dentelle bleue du ciel. Gaspé, la hache, le vieux pin qui s'écroule sur sa large blessure, la croix qui monte face à la mer et qui saigne de tous ses nœuds. L'île aux coudres, l'hôtel rustique fait de pièces accolées d'où monte l'amer encens de la résine, le sang du Christ qui bénit la terre nouvelle. Ainsi a préludé l'agonie du pin blanc. Depuis lors, sur ses flancs robustes, la hache s'est acharnée. Les vieillards ont d'abord livré leurs os bicentenaires à la membrure des vaisseaux, à la charpente des maisons. Puis, un jour, épisode d'une lutte sans merci entre le soldat corse et la reine des mers, tout un peuple, la hache sur l'épaule, s'est enfoncé dans la forêt pour la grande tuerie. Durant un long siècle, dès que le soleil du printemps avait descellé les glaces des vières, les cadavres d'arbres amputés, écorchés, ont descendu les rapides bouillonnants, heurtant leur tête à tous les rocs, tourbillonnant dans toutes les cataractes pour, après une course désordonnée, atteindre enfin le fleuve tranquille et prendre le chemin de la vieille Europe. Ainsi, les dernières phases de l'histoire du pin blanc, phase tragique, s'engrène à la genèse d'un petit peuple venu d'hier dans la vallée du Saint-Laurent. Durant un siècle, la mort du pin a été sa vie. Mais ils ont disparu pour jamais, les grands peuplements, silencieux comme des temples, orgueil de la Laurentie. À leur place, préverts et moissons riches, hameaux et blancs clochers, mais aussi villes noires, bourgs lépreux, sur qui traîne le crêpe lacéré des fumées. Le pin, cependant, reste encore un élément de beauté dans la forêt d'érable de bouleau, au milieu des pâturages, dans le voisinage paisible des maisons. Et puis, dans les vallons secrets de la montagne, et puis sur le cadre granitique du miroir des lacs. L'hiver, il garde le pin sous le manteau de neige, le privilège de la verdure immarcescible. Au printemps, quand partout le flambeau de la vie s'agite, lui aussi tressaille sous le grand coup de sève. Et du bout de ses rameaux sombres s'érige, d'un vert tout neuf, les lignes parallèles des pousses nouvelles. Les masses de pollen secouent dans l'air des millions de grains d'or, invisibles aéronefs, qui flottent alors partout sur la Laurentie, expression tumultueuse de la puissance génésique du pin. Pendant que la mâle vigueur de l'arbre s'effuse ainsi dans la lumière, sur les branches élevées surgissent, groupées, dressées, minuscules et roses, les jeunes cônes où se blottit le mystère virginal des ovules. Une infime élite des messagers d'amour, portés sur les vents dégourdis du printemps, atteindra les cônes et fécondera les germes serrés entre les écailles dures. Les autres, en légion de légion, sont pour les ébats et l'industrie des abeilles, pour la joie et l'ivresse de l'atmosphère. À l'automne, le cône, vêtu d'une cotte d'écailles, juvénile et purpurine, porte dans ses flancs la promesse encore inavouée de la moisson de graines. Il n'a guère qu'un pouce et demi de longueur quand l'hiver vient, et les vents rudes, et la neige folle. Et puis c'est le printemps encore, le renouveau. Tout reverdit et le cône se met à l'unisson. Il s'allonge, s'alourdit et graduellement s'incline vers la terre. En juillet de cette seconde saison, les cônes sont adultes, ont 3, 6, 10 pouces de longueur. Comme des visages, ils ont bruni sous la caresse prolongée du soleil et chacune de leurs écailles porte à son aisselle 2 graines ailées prêtes à entreprendre le périlleux voyage de la vie. Septembre, le cône, si rigide en apparence, obéit à des ordres secrets, à une invisible baguette, se ferme à l'humidité et s'ouvre à la sécheresse. Cette alternance, petit à petit, libère les graines mûres qui, dès la fin d'octobre, ont chu sur le sol. Et c'est pourquoi, après l'épreuve de l'hiver, montrons au ciel les robustes plantules qui, nées à peine, ouvrent à la vie, en tous sens, leurs fines branches, ne demandant qu'un peu de lumière, un peu de rosée et la paix du sable roux pour rallumer encore, sur les horizons laurentiens, la gloire finissante du pain blanc, le roi de tous.